Second livre des Rois, chapitre 6, versets 1 à 7. Les fils des prophètes dirent à Élisée, « Voici l'endroit où nous habitons en ta présence est trop réduit pour nous. Allons donc jusqu'au Jourdain. Nous y prendrons chacun une poutre et nous nous y ferons un lieu d'habitation. » Il répondit, « Allez !» L'un d'eux dit, « Consens donc à venir avec tes serviteurs. » Il répondit, « J'irai. » Il alla donc avec eux. Arrivés au Jourdain, ils coupèrent des arbres. Comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, « Ah, mon Seigneur, il était emprunté !» L'homme de Dieu dit, « Où est-il tombé ?» Il lui montra l'endroit. Alors Élisée coupa un morceau de bois, il le jeta au même endroit et fit surnager le fer. Puis il dit, « Reprends-le !» L'autre tendit la main et le prit. Amen. Tout avait bien commencé. Et nous verrons, eh bien, dimanche prochain, de quelle manière, eh bien, cette vision que les fils des prophètes ont eue d'élargir leur espace et d'aller plus loin s'est faite. Nous savons que grandir avec Jésus ne peut pas se faire n'importe comment. De la même manière qu'une plante a besoin de tuteurs pour grandir droit, a besoin de lumière, a besoin d'eau, a besoin de racines, eh bien, et qu'une plante eh bien, a besoin de certains éléments pour bien grandir, il en va de même eh bien, de notre croissance spirituelle, individuelle et collective. Et nous verrons que ces fils des prophètes avaient agi de manière tout à fait spirituelle, tout à fait sensée, et que finalement, ils sont des modèles pour nous dans leur manière de faire et dans leur manière d'aborder les choses. Simplement, voilà qu'en route, voilà qu'en chemin, il y a un incident. Et que alors qu'ils sont en train de travailler pour l'œuvre de Dieu, alors qu'ils sont en train d'avancer et que le projet est en train de voir le jour, voici qu'un fer de hache tombe et cela génère un incident grave puisque c'était un objet de valeur qui avait été de surcroît emprunté. Et de ce fait, du fer qui tombe dans l'eau, allez le chercher, vous. À moins d'avoir un bon masque et un bon tuba et puis de bons bras, hein, c'est loin d'être évident. Et visiblement, eh bien, ça posait un grave problème. Petite parenthèse, être dans le plan de Dieu ne nous garantit pas eh bien, de ne vivre aucun incident. C'est une chimère et c'est une folie que de penser une chose pareille. Être dans le plan de Dieu, c'est la garantie que nous arriverons à bon port en bon état, mais cela ne veut pas dire qu'au cours de la route, nous serons toujours en bon état et que tout sera toujours facile. Mais c'est la garantie que toute chose concourt à notre bien dans le plan qui est tracé, même les mauvaises. Et ainsi, nous voyons que grandir, cela ne se fait pas n'importe comment, et qu'il y a une nécessité, nous verrons cela dimanche prochain. Mais ce qui m'a intéressé, c'est l'incident du fer. Aussi que cet homme est en train de travailler, est en train d'œuvrer, et tout d'un coup, ce drame, cette difficulté apparaît. Et cela m'a fait penser à bien des choses. Et une question est venue sur ma vie. C'est de me dire, finalement, pourquoi ce fer de hache est-il tombé ? Pour quelle raison ? Nos vies sont des instruments entre les mains de Dieu. Notre foi est l'instrument principal avec lequel nous travaillons, avec lequel nous œuvrons. Tout ce que nous le faisons avec foi, c'est-à-dire avec confiance, avec assurance. Et cette foi, elle est ancrée sur un bois bien précis, qui est le bois de la croix, qui est l'œuvre de Jésus. Notre foi est rattachée à ce qui s'est passé il y a 21 siècles à Golgotha. C'en est la source. Nous sommes collés à cette œuvre-là et je crois, mes frères et sœurs, qu'il se peut qu'à certains moments de nos vies chrétiennes, nous soyons susceptibles de perdre le fer. Nous soyons susceptibles, eh bien, non seulement que notre foi soit moins aiguisée, mais qu'elle se dissocie du bois et de l'œuvre de Jésus. Est-il encore possible de croire en Jésus sans être ancré sur l'œuvre du calvaire ? Oui. L'épître de Jacques nous dit que les démons croient en Dieu et qu'ils tremblent. On peut vivre une certaine forme de religiosité sans pour autant être efficace. Et cette pensée assez forte sur mon cœur, ce matin un frère, une sœur à le bois de la hache, à le fer, pardon, de la hache qui est en train de vaciller. Cette pensée assez forte sur mon cœur que finalement, le fer est en train de ne plus être attaché au bois et que le fer risque de tomber. Cet homme était en train de travailler. Il travaillait pour l'œuvre de Dieu. Il faisait partie d'une école biblique. C'est pas rien, hein. L'école biblique d'Élysée, c'était fabuleux ça, vous imaginez? J'aimerais bien m'asseoir au pied d'Élysée, bon, ça aurait été sympa ça. Puis s'il était là, je lui laisserais volontiers la place. Pourtant, le fer va tomber. Et je me suis posé ces questions. Première chose, avait-il raison de travailler avec un fer qui était emprunté? Mon père me disait souvent qu'il détestait conduire les véhicules des autres, les VDA, comme il les appelait. Parce que si jamais il y avait des problèmes, c'était une source d'ennui, donc il préférait marcher à pied. Et je me dis que cet homme n'aurait jamais dû travailler avec le fer de quelqu'un d'autre. Et parfois, en tant qu'enfant de Dieu, nous pouvons travailler avec la foi de quelqu'un d'autre. Nous pouvons travailler avec les valeurs de quelqu'un d'autre. Nous pouvons travailler avec les fondements de quelqu'un d'autre. Comme j'ai l'habitude de le dire, nous sommes plutôt attachés à un serment qu'au cep. Nous sommes plutôt attachés à un exemple que nous avons pu recevoir plutôt qu'à la personne même de Jésus. Et c'est dangereux de travailler avec la foi de quelqu'un d'autre, d'être supporté par la foi de quelqu'un d'autre, d'avoir, eh bien, sur nos yeux, de dépendre du modèle de quelqu'un d'autre. Il est nécessaire, bien sûr, d'avoir des tuteurs, parce qu'une simple plante a besoin, eh bien, qu'on mette un bout de bois à côté de manière à ce qu'elle grandisse droit. Mais nous n'avons pas vocation à vivre par procuration et à travailler avec la foi de quelqu'un d'autre. Autrefois, la foi, c'est un sentiment, ce n'est même pas un sentiment, c'est une espérance qui est dans notre cœur et qui nous est intimement personnelle. La seconde question qui m'est venue à l'esprit, c'est de me dire comment cela se fait-il ? À l'origine, le fer, il devait être bien attaché. Et voici que cet homme tapait, et il n'a pas pris soin du matériel. Il a avancé, et ça fait penser à bien des chrétiens qui avancent, et finalement oublient de prendre soin du matériel. Pense à toutes sortes de choses. Et dans le livre de l'Apocalypse, on a l'exemple de l'église de Laodicée qui faisait des œuvres extraordinaires, qui était dans un contexte économique fabuleux. Ils avaient une école de médecine, ils avaient une industrie textile riche. C'était une église qui était certainement bien lotie. Et pourtant, eh bien, l'Esprit de Dieu va leur faire ce reproche. Tu ne sers plus à rien. Tu n'es ni tiède, ni froid, ni bouillant. Et vous connaissez l'allégorie, ça fait penser au contexte géographique. Les eaux froides de Colosse servaient, eh bien, à rafraîchir le bassin, tandis que les eaux chaudes de Hiéropolis, eh bien, servaient à guérir les corps via les thermes. Et au milieu, il y avait Laodicée, qui recevait que de l'eau tiède, et bref, qui n'avait aucune utilité. Et là, travaillés, ils ont œuvré, et l'Esprit de Dieu leur dit, mais tu ne t'es pas aperçu que tu étais devenu pauvre, aveugle et nu. Mes frères et sœurs, je pense que c'est une réalité qu'il faut bien garder dans notre cœur. C'est que le matériel de notre foi, nous avons vocation à l'entretenir. Notre relation avec le manche, qui est Jésus, avec l'œuvre de la croix, c'est quelque chose que nous avons vocation à entretenir. Si nous ne l'entretenons pas, alors, eh bien, ça durera un temps. Alors, oui, nous pourrons toujours abattre des poutres, Mais il adviendra un moment où eh bien, le manche et le fer commenceront à bouger et où le fer tombera de manière irrémédiable. Il faut bien se dire que notre foi, notre relation avec Dieu, eh bien, il est nécessaire d'y travailler. L'apôtre Paul dira « travailler à votre salut ». Non pas que nous ayons à acquérir notre salut, parce que le salut a été acquis une fois pour toutes sur le bois de la croix à Golgotha. Mais nous avons vocation à veiller à rester cachés en Jésus. Veiller à rester collés à Jésus, collés à l'œuvre de la croix. Parce que comme j'aime à le dire, à le redire, comme je vous le redirai chaque fois que je prêcherai, si je ne suis pas caché en Jésus, alors je deviens profondément vulnérable. Si je ne suis pas en Jésus, alors je peux être assiégé par la culpabilité, alors je peux être assiégé eh bien, par vraiment la déferlante de ce monde. Mais quand je suis en Jésus, alors je suis gardé, alors je suis protégé. Cet homme a fait preuve de laxisme. Pour lui, abattre des poutres était peut-être plus urgent. Était peut-être plus urgent que, finalement, entretenir son matériel. On a l'exemple de Marthe et Marie, où Jésus dira à Marthe que la priorité, ça doit être d'être auprès du Seigneur. Alors oui, on a besoin d'abattre des poutres, parce que sinon la maison ne peut pas avancer si on n'abat pas de poutres. Mais simplement, toujours en veillant eh bien, sur le matériel de notre foi, toujours en veillant sur eh bien, notre relation avec Dieu. Première raison, il a fait preuve de laxisme. Deuxième raison, il s'est trompé dans ses priorités. Il a préféré eh bien, abattre de la cadence plutôt que de veiller sur son propre cœur. Troisièmement, peut-être une preuve de suffisance. En disant, ça fonctionne bien comme ça. Pourquoi est-ce que je me prendrais la tête à faire plus attention? Et ça, à un moment donné, on se l'est tous dit dans nos têtes. Moi, je me le suis dit, ma vie chrétienne est bien. Pourquoi est-ce que j'y ajouterais un petit peu de maintenance? Tout est bien en place. Mais on ne se rend pas compte qu'aux jointures, il y a de l'usure. On ne se rend pas compte que, eh bien, à certains endroits, il y a un jeu qui est en train de se créer. Tout fonctionne, tout roule. Je suis présent à l'église tous les dimanches matin. Fabuleux. Et le comble de la consécration, c'est quand on vient le jeudi soir. Là, on est des chrétiens extraordinaires, fabuleux. D'ailleurs, ça serait sympa qu'il y ait un peu plus de chrétiens fabuleux. Ça permet d'entretenir un petit peu la maintenance, vous savez. Il y a tellement peu de moments où on peut trouver un peu de repos dans notre monde et dans notre société. Tellement peu de moments que si on ne les met pas à part. À partir de ce moment-là, cet homme ne s'est pas aperçu qu'il était en train de perdre l'essentiel. Que va-t-il se passer? Comment, si la situation est-elle irrémédiable? Bien sûr que non. Parce que même lorsque le fer est tombé, même lorsque la foi est morte, Jésus est capable de la faire surnager. Mais pas de n'importe quelle manière. Il a fallu que l'homme, premièrement, aille voir Élisée. Si tu veux que ta foi surnage à nouveau, si tu veux que ta foi soit réparée, ne te trompe pas. La personne principale, c'est Jésus. C'est la personne du maître. C'est lui qui est le chef et qui est le rémunérateur de notre foi. Deuxième chose, cet homme, il a dû montrer l'endroit où c'était tombé. Il a dû dévoiler l'endroit où le fer était, l'endroit où l'incident s'était produit. Et je pense que ça nous parle de cette notion importante qui est de mettre les choses à la lumière. Au fond de nos vies, au fond de nos cœurs, il y a bien des choses qui sont là. Par pudeur, par suffisance peut-être, par crainte du jugement, on les garde bien au fond de nos vies, bien au fond de nos cœurs. Parce que c'est ainsi que l'on a été construit, parce qu'on nous a appris qu'un homme fort, eh bien, ne confessait pas les choses et mettait toujours des apparences, mettait toujours des façades. Et ces façades, inconsciemment, elles deviennent vraies même pour Dieu. Mais tant qu'on ne montre pas à Jésus où l'incident s'est passé, tant qu'on ne confesse pas à Jésus l'endroit où eh bien, la faute a été commise, tant qu'on ne met pas notre péché à la lumière, eh bien, mon frère, ma sœur, le fer ne peut pas être, eh bien, remplacé. Tu sens que le fer est en train de partir. Tu sens que peut-être même il est tombé et qu'il y a une dissociation. Tu ne sens plus forcément la présence de Dieu. Tu ne sens plus l'onction. Tu sens qu'en toi, il y a des choses qui sont cassées. Eh bien, montre au Seigneur où est-ce que ça s'est passé. Dis au Seigneur où est-ce que ça s'est passé. Ça peut être un péché que tu as commis. Mais ça peut être une souffrance que tu as reçue. Tu as pu être victime du mal que l'on t'a fait. Et quelque part, eh bien, ta foi a été cassée, ta foi a été meurtrie, ta foi a été brisée. Une parole destructrice. Et le fer tombe. Parce qu'il ne faut pas croire. Un fer, ça tombe facilement. Le fer de notre foi est capable de tenir facilement quand c'est nous qui le tenons. Hein. Où s'est passé l'incident? Où s'est-il passé? Qu'est-ce qui a fait mal à ta vie? Qu'est-ce qui a fait mal à ton cœur? Qu'est-ce qui a créé une distance entre Jésus et toi? Troisième phase. Élisée va jeter le bois, un morceau de bois qu'il va couper lui-même. On pourrait disserter sur le lui-même, mais je n'ai pas le temps. Et là, ce qui est lourd va remonter à la surface. Incroyable, hein ? C'est une drôle de chimie, la chimie de Dieu, hein ? Une drôle de physique. Hein ? Ce qui est lourd va remonter à la surface. Vous pouvez remarquer que je n'ai pas dit que le fer va remonter à la surface, mais que j'ai dit que ce qui est lourd va remonter à la surface. Parce que si on veut une guérison intérieure profonde, il faut montrer où les blessures à Jésus, où les blessures ont été faites, et là, le bois de la croix, le bois de l'œuvre de Jésus, et encore une fois, il est fait mention de bois, celui qu'il s'est fait lui-même, l'œuvre qu'il a accomplie lui-même, eh bien, fera remonter ce qui est lourd à la surface. Que ce soit un péché lourd, que ce soit des blessures lourdes, que ce soit des sentiments lourds, que ce soit des douleurs lourdes, eh bien, ça remontera à la surface. Encore faut-il accepter que les choses remontent à la surface. Encore faut-il accepter que, eh bien, on soit parfois en face de nos douleurs de manière sporadique. Mais de manière simplement sporadique, parce qu'on ne les garde pas pour nous. On les emmène au bois de la croix. Jésus les a déjà portées il y a 2000 ans. Et c'est incroyable de se dire qu'à partir du moment où je confesse les choses à Jésus, à partir du moment où je les lui apporte de tout mon cœur, alors il me fait vivre cette réalité, c'est qu'il les a déjà portées, et instantanément, dans mon cœur, vient la paix, vient la tranquillité. Instantanément, dans mon cœur, vient la restauration. Parce que je lui apporte les choses. Mais mes frères, mes sœurs, certains parmi vous se disent « Ouais, mais moi j'ai 15 ans de conversion. » J'ai plus besoin de me convertir. Je parle pas de la conversion. Je parle du sale coup qui t'avait fait il y a 15 jours et qui t'a été fait il y a 15 jours et qui est en train de se transformer en amertume dans ton cœur. Je parle eh bien, des paroles difficiles que ton mari a pu te dire et qui te restent en travers de la gorge. Et depuis, c'est la soupe à la grimace. Je parle peut-être des rapports conflictuels qu'il peut y avoir avec un frère ou une sœur, avec tes propres enfants. Toutes ces choses-là, c'est des fers qui sont déposés au fond de nos vies. Ce sont des choses lourdes qui sont déposées au fond de nos vies et qui ont besoin d'être placées devant la croix, sur lesquelles l'œuvre de la croix a besoin d'être placée. Et ça remonte. Alors je te pose une question simple. Qu'est-ce qui est en train de remonter ? Sois franc avec toi-même. Je suis franc avec vous. Je prends pas de gants. Je suis pas connu pour ma diplomatie. Qu'est-ce qui est en train de remonter là dans ton cœur ? À quoi est-ce que tu penses alors que tu m'entends, alors que tu entends ? Plus que ma voix, j'espère. Et je le crois. Et tout d'un coup, alors que le fer est en train de surnager, c'est pas fini. Élisée va dire à cet homme, reprends-le. Et littéralement, lève-le pour toi. Il y a des choses que l'on a pu perdre et que l'on a pu enfouir au fond de nos vies. Le zèle. L'amour de Dieu. Un appel. Notre vie de prière. C'est au fond, là. Ça ne veut pas dire que ça n'y est pas. Mais c'est au fond. Et si ce matin, Jésus le faisait remonter à la surface, reprends-le. Reprends ce que tu as abandonné. Il y a des choses qu'il faut laisser à la croix définitivement, les blessures, tout ce qui est lourd. Mais il y a des choses que l'on doit recommencer dans nos vies parce qu'on les a abandonnées sur le chemin. Cet homme, Élisée, va lui redonner le fer de hache de manière à ce qu'il reprenne la marche. À ce qu'il reprenne le travail. Il ne le lui rend pas pour faire de l'esbroufe, pour faire un tour de magie, un tour de passe-passe. Mais il le lui rend pour qu'il reprenne le travail. Reprends-le. Reprends ce qui est en train d'émerger. Reprends ce que la grâce de Dieu est en train de réparer. Reprends ta marche là où tu l'avais arrêtée. Et ça, on ne peut le faire qu'à partir du moment où les mauvaises choses ont été confessées, ont été libérées. Alors les bonnes, elles aussi, remontent à la surface. Moi, j'aime ce récit. Parce que finalement, on est toujours en train de reprendre des choses au-dessus de nos vies. On est toujours en train, avec la grâce de Dieu, chaque fois qu'on lit la parole de Dieu, très souvent, je ne vais pas systématiser, au cours d'une prédication autour de nos quotidiens, de reprendre les choses, soit d'en enlever, soit de recommencer. Parce que notre vie chrétienne, c'est un chantier. C'est un chantier. Il y a des retouches à faire parfois. Il y a des murs à casser. Parce qu'on est champion pour bâtir des murs. Hein. On est les rois des cloisons. Au début, elles nous protègent, et puis au bout de 5 ans, ça devient des prisons. Reprends-le. Reprends ce que tu as perdu. Reprends ce que tu as abandonné. Ce matin, ça surnage là. C'est devant toi, c'est devant ton cœur. Reprends-le. C'est devant tes yeux. C'est pour toi. C'est pour toi que le Seigneur Jésus le fait. Reprends-le. C'est la grâce. La grâce de Dieu qui répare, qui console et qui remet à neuf. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. On va courber nos fronts quelques instants. Et alors que je prie, si certains parmi vous voient quelque chose qui est en train de flotter à la surface de leur imagination, plutôt à la surface de leur cœur, alors, eh bien qu'ils puissent gentiment le reprendre, soit pour l'enlever, soit pour recommencer la marche. Comme un acte de foi, en disant, Seigneur, voilà, c'est pour toi que je le fais. On va rester juste quelques secondes dans le recueillement, les yeux fermés, tranquillement. Puis on va discuter chacun avec Dieu. On va avoir une petite conversation chacun avec Dieu. Te remercions, Seigneur, parce que, quel que soit ce qu'il y a au fond de nos vies, soit de blessant, soit de mort, Seigneur, ta grâce est capable de le faire surnager. Soit pour nous guérir, mon Dieu, soit pour recréer, rebâtir et redonner la vie à quelque chose qui te servira. Je te bénis, Seigneur, parce que ta grâce est là et qu'elle, Seigneur, est au-dessus de toute notre intelligence. On ne peut pas la comprendre. Seigneur, humainement parlant, on ne peut pas saisir. Mais ce que nous avons appris, Seigneur, c'est que pourtant elle est agissante dans nos vies. Merci parce que tu es le Dieu qui fera infiniment au-delà de ce que nous pouvons demander ou même espérer. Merci Seigneur parce que ta grâce, elle est agissante. Merci parce que je crois que ce matin, tu as fait surnager les choses. Seigneur, étends ta main et tu fais du bien à chacun et à chacune. Dans le nom de Jésus. Amen.